France Musique.
Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour explorer les trésors de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Dans quelques jours, vendredi prochain, au musée du Louvre à Paris, à l'occasion de l'exposition consacrée à Pierre Soulages, on pourra assister à un concert d'œuvres de Pascal Dussapin. C'est un prétexte idéal pour inviter le compositeur à réécouter en sa compagnie quelques enregistrements de ses pièces glanées au fil de 4 décennies. Tandis que tout à l'heure, à 22h, dans le carrefour de la création, Suzanne Gervais évoquera plus particulièrement les relations entre la musique et les autres arts à l'occasion de ce concert au Louvre. Bonsoir Pascal Dussapin.
Bonsoir Arnaud Merlin.
Est-ce que vous êtes un de ces compositeurs qui se réécoutent ou au contraire qui ne se réécoutent pas?
Je ne me réécoute quasiment jamais.
Est-ce que vous vous nourrissez de votre catalogue en quelque sorte, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement et c'est toujours l'œuvre suivante qui compte?
Alors il faut différencier évidemment le moment du travail et le moment du concert. Quand j'ai des concerts auxquels j'assiste, je suis évidemment obligé de me réécouter, hein, naturellement. Et ça, je déteste pas, parce que j'apprends des choses. En revanche, quand je travaille, je ne pratique pas l'auto-réflexion ni l'auto-citation. Et puis, je crois avoir suffisamment de mémoire pour me souvenir de tout ce que j'ai fait.
Et vous ne révisez pas vos œuvres?
Ça m'est arrivé, mais extraordinairement rarement. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Donc, ça ne m'est pas arrivé, en fait.
Alors, j'ai pour commencer une petite surprise pour vous. Je vous propose de revenir presque 42 ans en arrière. Nous sommes en avril 1978.
Vous écoutez les après-midi de France Culture. Il est 16h07. Et maintenant, Pascal Dussapin, 23 ans, compositeur très doué, élève de Xenakis et également étudiant en architecture, se confie à Nitia Falocci.
La composition, pour moi, au départ, c'est une déchirure. J'ai des petites habitudes comme ça. J'aime bien dire que je compose pas, j'arrache la musique. C'est-à-dire que quand je travaille, jusqu'à présent, je ne travaille pas d'une façon comme ça, sereine et détachée. Ça me coûte beaucoup. Ceci dit, quand je parle de déchirure et d'arracher la musique, je ne veux pas que cela soit compris comme une profession de foi romantique où le compositeur travaillerait en transe mystique de préférence, avec tout ce que ça suppose de sentimental et d'une affectivité enfin plus ou moins médiocre comme ça. La musique, la composition, ce n'est pas ce travail que le grand public a l'habitude d'imaginer. C'est-à-dire, ça, c'est une vision qui nous vient de ce foutu 19e siècle, que pas beaucoup de gens ont compris, malheureusement. C'est-à-dire, avec tout ce romantisme. Souvent, quand je parle avec des gens, ou des gens s'intéressent à mon travail, comme ça, ils me parlent d'inspiration, d'espèce de folie bohème de l'artiste. Moi, j'ai horreur de ça, je déteste ça. C'est faux, c'est pas vrai. La composition, la création, l'organisation des choses, de ces choses de la pensée, n'appartiennent pas à ce que les gens voudraient bien en croire. Par exemple, si vous prenez le pape du romantisme, vous prenez Chopin, par exemple. Alors, Chopin, les polonaises, les mazurkas, je ne sais pas quoi. Bon, c'est superbe, évidemment. C'était un très, très, très grand génie de la musique. Mais Chopin ne composait pas comme ça, près d'une petite fontaine, en pensant à George Sand ou à je sais pas quoi. Il travaillait, pour écrire 2 ou 3 secondes de musique, parfois il peinait comme un diable. Il peinait, c'est ça. Je veux dire, on en arrive là. Je veux dire, pour arriver à organiser quelques secondes de musique, moi j'ai parfois passé des semaines, pour que ça tienne, pour que ce soit cohérent, intéressant. Ceci dit, c'est peut-être raté, hein. Alors ça c'est une autre histoire. Mais c'est quelque chose de très long. Enfin, pour moi, la composition, c'est quelque chose de très long, où j'exige de moi un investissement passionnément. C'est pour ça que je dois être un petit peu ambigu pour ça, quand je parle du romantisme. Enfin, vraiment un investissement passionné et presque suicidaire comme ça. faut se jeter, mais pas d'une façon irréfléchie. Ça exige un investissement de l'intelligence, enfin, existentielle, quotidien, qui est parfois très dur. Si on veut arriver à bâtir quelque chose qui soit une expression de la pensée, de l'intelligence, avec des idées intéressantes. Je dirais pas belles, mais intéressantes.
Pascal Dussapin, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce jeune homme de 1978?
Oui, bien sûr. Ouais. Je suis très étonné, en fait. J'ai aucun souvenir.
De cette interview, mais du jeune homme.
Oui, le jeune homme, je m'en souviens bien, oui. Et ça correspond, je suis très ému évidemment, hein. C'est quelque chose quand même dans l'existence d'entendre sa voix 40 ans après quand même. Mais ce sont des propos très romantiques justement, je trouve.
Oui, il y a un paradoxe, mais vous le dites vous-même.
Oui, oui, je suis conscient quand même, à cette époque j'en étais conscient. Mais j'étais aussi un peu sous contrôle de l'époque, j'oserais dire. Et à cette époque, j'étudiais encore avec Xenakis. Par exemple, vous voyez, je parle de moi.
Vous parlez de vous, la troisième personne.
Parce que c'est quelqu'un d'autre, peut-être, oui. Quand même. Mais quand je fais cette différence entre beau et intéressant, ça, c'est vraiment ce que disait Xenakis. Ouais. C'est vraiment une citation. Il se défendait de la question du beau au profit de celle de l'intéressant, quoi. Alors, il mettait, comme il était grec, comme vous savez, il mettait quelquefois deux R intéressants, ou trois intéressants. Alors, mais enfin, ce sont les tics de l'époque qui se protégeaient beaucoup de la question du lyrisme, au fond.
Ouais. Alors, le premier concert avec des pièces de Pascal Dussapin que j'ai trouvé dans les archives, c'est un concert du 28 mars 1979, donc l'année suivante, c'est au Musée d'Art Moderne. C'est l'ensemble Ars Nova que dirigeait Philippe Naon. J'imagine que vous vous souvenez de ce concert. Et la pièce la plus ancienne, c'est Souvenir du silence. C'est un titre signifiant, ce qui ne sera plus le cas après chez vous.
Alors, en plus, c'est un titre qui dit vraiment ce qu'il veut dire. Ouais. Souvenir du silence, c'est une pièce que j'écris quand j'ai 20 ans. Et qui est à l'orée, au fond, de deux mondes. Celui très formel de Xenakis, parce que j'utilise beaucoup de techniques, d'outils qui viennent de Xenakis, qui me servent encore aujourd'hui. Et aussi de la musique de Donatoni, qui était un compositeur dont je n'ai pas été l'élève, mais qui a beaucoup compté, avec qui j'étais très ami. Et en quelque sorte, il a été un de mes maîtres, au fond. Mais le titre lui-même renvoie, en fait, à la période d'avant la musique que j'appelle le silence. Mmh. Et en quelque sorte, je clôt cette période par ce premier opus que j'appelle Souvenir du silence, parce qu'il charrie en quelque sorte le temps d'avant. Et cette pièce, par exemple, est aussi une terminaison, parce que après, je n'écris plus du tout comme ça. Mais le mois d'après, je change complètement. Thank you.
Souvenir du silence pour 13 cordes de soliste par l'ensemble Ars Nova, dirigé par Philippe Naon. C'était le 28 mars 1979 à Paris, au Musée d'Art Moderne. C'était la création de cette pièce. Ars Nova, comme 2E2M, comme Accroche-Note, ce sont des compagnonnages importants pour vous, Pascal Dussapin.
Ah, ils ont tout simplement été essentiels. Ars Nova et 2E2M étaient vraiment et un tout petit peu plus tard, l'ensemble Accroche-Note, qui est encore pour moi une de mes bases, étaient les groupes par lesquels ma musique est passée, enfin des gens comme Paul Méphano, Philippe Naon, Marius Constant, enfin qui avait légué en quelque sorte ça à Philippe Naon. Et c'était des... Il y avait une très grande liberté en fait. Il y avait quelque chose de beaucoup plus rapide. Par exemple, Paul Méphano, c'était comme ça que ça se passait. Ah, t'as fini une pièce là, attends, on va la jouer la semaine prochaine. Enfin, j'exagère un peu, mais en tout cas, le mois d'après, il y avait une fluidité. Tout ça était un peu plus foutraque, évidemment, au niveau de l'organisation, mais c'était extrêmement rapide, efficace et très, très gai et très militant, au fond. Hein. Aujourd'hui, on est 3-4 ans à l'avance, quand c'est pas 5, enfin, même un jeune compositeur, on lui... Si l'ensemble Attaque Reprend fait une commande à un jeune, il est tout de suite dans un délai de 2 à 3 ans, quoi.
Alors, je citais aussi Accroche-Note parce que je vais vous faire écouter la pièce suivante. C'est un enregistrement réalisé par le clarinettiste Armand Angster dans un drôle de lieu. C'est dans une boîte de nuit.
Ah oui.
À Strasbourg. Ouais. Ça s'appelait le Loft et c'était en septembre 1985.
Thank you.
Itou, c'est le clarinettiste Armand Angster qui joue cette pièce de Pascal du Sapin le 26 septembre 1985, c'était la création d'ailleurs,
oui.
À Strasbourg, dans le festival musical, mais alors, dans une boîte de nuit, il y avait de drôles de... Qu'est-ce qui avait l'idée?
C'était un moment très, très joyeux, en fait. C'était une idée de Laurent Bell.
Qui a fondé le festival
et qui donc était en 85 encore le directeur. Et il voulait en quelque sorte délocaliser dans d'autres lieux, faire advenir cette musique, j'imagine, à d'autres publics, à d'autres instants de festivaliers. Et j'avais accueilli cette idée avec beaucoup de plaisir, parce que les gens sont dans un bar et ils boivent des bières, des choses comme ça. Et c'était pas un auditoire très concentré, mais au fond, tout à fait là, quoi. Parce que c'est quand même quelque chose de venir écouter de la musique dans un lieu comme ça. Enfin, il y avait une atmosphère très jazz. Et en plus, qui allait très bien à la pièce, puisque c'est un hommage un peu crypté à Eric Dolphy. J'étais très heureux de ce moment-là.
Oui. Avec Armand Angster qui lui-même improvise très régulièrement,
oui,
et qui pratique ces musiques-là aussi,
sûr, hein, oui,
qui
oui.
n'est pas seulement un interprète oui. de musique dite écrite, si ça veut dire quelque
oui,
chose. Alors, je voudrais vous proposer maintenant, Pascal Dussapin, quelque chose d'un petit peu plus récent, avec une autre interprète, c'est Sonia Wiederaterton, et c'était dans une émission de France Musique, ici même à Radio France, c'était l'émission Les Imaginaires de Jean-Michel Damian, et c'était le 30 octobre 1993, c'est une pièce d'ailleurs qu'on va pouvoir réécouter dans quelques jours au Louvre. Vous écoutez le concert du Carrefour de la Création sur France Musique, comme chaque dimanche, jusqu'à minuit et demi, et vous écoutiez In Vece de Pascal Dussapin. C'était la violoncelliste Sonia Wiederaterton le 30 octobre 1993, ici même, à Radio France, dans le cadre de l'émission Les Imaginaires de Jean-Michel Damian. C'était sur France Musique. In Vece, c'est le contraire de, c'est au contraire.
Oui, c'est un mot italien qui veut dire au contraire de, et qui était au fond le programme de cette petite pièce. Écrite pour ma grande amie Sonia Wiederaterton, qui en fait se pose une question, la pièce se pose une question très simple, comment faire beaucoup avec presque rien? C'est-à-dire, en gros, à l'envers de ce que je faisais d'habitude. C'est une pièce où il y a un programme. Je m'étais alors demandé quelles sont mes tics, quelles sont les choses que j'aime faire, et puis j'avais fait une liste comme ça, et je les avais toutes barrées, et j'avais utilisé que les choses que j'utilisais très peu. Et au fond, dans cette pièce, il y a un mode avec très peu de notes et toute une grille rythmique. Enfin, il y a tout un travail un peu particulier qui fait que, en fait, la musique se déploie contre sa propre origine, en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle donne le sentiment de tourner autour d'elle-même et de forcer toujours un passage vers sa propre fin.
On vous connaît beaucoup, Pascal Dussapin, aujourd'hui pour votre travail opératique lyrique et puis aussi beaucoup pour l'orchestre. Dans cette émission, on a mis l'accent plus sur les pièces solistes ou les pièces de musique de chambre. Quelle est la part de cette musique de chambre et des pièces solistes aujourd'hui pour vous dans votre travail?
Alors elle est fondamentale. Enfin, je crois que beaucoup de compositeurs pourraient dire ça, mais tant il est vrai que la musique de chambre pose des questions extrêmement sévères, presque au sens moral. D'abord, vous pouvez pas vous cacher derrière un autre instrument, ou très très peu. Vous pouvez pas figurer autre chose que ce qui est en jeu là, quoi, hein. Et donc ça, j'aime beaucoup. Après, c'est un mini laboratoire, toujours, pour des formes beaucoup plus grandes. Et c'est pour ça que je pense que ma musique, c'est toujours... mes grands projets sont toujours accompagnés de ce que j'appelle des satellites, qui sont toujours des petites pièces où, au fond, je pose les mêmes questions, mais avec un matériel presque antinomique. Enfin, par exemple, j'ai une pièce pour clarinette qui s'appelle Ipso, qui a exactement le même programme formel, si on peut dire, qu'une pièce d'orchestre qui s'appelle Extenso. Mmh. Et pourtant, ces deux pièces n'ont apparemment rien à voir. Et pourtant, si on regarde de près, enfin, encore qu'il faudrait que je donne moi-même les clés, il s'agit bien de la même question.
Alors on va refermer cette émission Pascal du Sapin avec une pièce qu'on pourra retrouver au programme du concert du Louvre vendredi prochain, et d'ailleurs par les mêmes interprètes. C'est le violoncelliste Hansi Karttunen et le pianiste Nicolas Hodges. Ça s'appelle Slackline et nous l'écoutons lors de sa création française. C'était lors du festival Présence en 2017.
Thank you.
Slackline pour violoncelle et piano de Pascal Dussapin, c'était la création française en février 2017, ici même à Radio France au Festival Présence. Le violoncelliste Hansi Kartunen, le pianiste Nicolas Hodges, on les retrouvera en concert vendredi prochain au Louvre dans le cadre de ce concert en lien avec l'exposition Soulage, et Suzanne Gervais y reviendra tout à l'heure. En votre compagnie, Pascal Dussapin, ce sera 22h dans le carrefour de la création. Merci beaucoup.
Merci Arnaud Merlin.
Pascal, d'avoir accepté cette invitation. Je vous retrouve dimanche prochain à 20h pour un nouveau concert d'archives.
À réécouter sur francemusique.fr.